Et son premier roman s'intitule « Toutes les vies ». Elle a commencé la sienne en se prénommant Julia, avant qu'un ami lui propose Rebecca, avec un K pour pseudo, scène 1, extérieur jour, un après-midi de novembre, devant chez elle, Rebecca Warrior.
Hola.
Hola.
Que tal?
Je sais pas comment on dit après.
Mince. Ça va, rentre.
Faut enlever les chaussures ou pas?
Et si t'as le courage, c'est...
Ouais, je vais faire ça.
Tu peux?
Ouais, bien
tu
sûr.
Tu veux de l'aide?
Je veux pas.
Tu veux que tu tiennes le micro, je fais le job.
Ok. J'espère que j'ai pas trop à mes chaussettes, hein.
Non, je suis pas regardante.
Même si t'as des chaussettes dépareillées.
Elle accueille comme si on s'était quitté la veille, alors que nous nous rencontrions pour la première fois. Je connaissais sa voix, sa silhouette, son crâne rasé, ses lunettes noires. Rebecca Warrior est chanteuse et musicienne depuis le début des années 2000. Et elle n'a cessé de muter sous ce même nom de scène. Aujourd'hui, elle forme le duo Compromat avec le musicien Vitalik. Au cours de la conversation qui suit, vous entendrez The Cure, Mylène Farmer ou encore Philip Glass. Un éclectisme qui la raconte. Début novembre, Rebecca Warrior a reçu le prix de Flore pour son premier roman, Toutes les vies. Elle y raconte son amour pour une femme, la maladie qui la tue, puis la fuite autant que la quête spirituelle et artistique qui s'ensuit. C'est l'histoire d'une amoureuse, amante, devenue aidante. Nous étions pieds nus dans son salon, coup de bol, mes chaussettes n'avaient pas de trous, et Rebecca Warrior avait pris le micro, le temps que je me déchausse.
Totémique. Rebecca Manzoni sur France Inter.
Alors, qu'est-ce que ça fait d'être là?
Eh bien, je suis un peu intimidée, je dois dire.
C'est mon chat qui t'intimide. Tiens, je te rends ton instrument de torture.
À ce point-là?
Non, ça va, le micro, ça va, c'est les caméras qui me... Est-ce que je t'offre un café ou un truc à boire?
Plutôt un thé.
Plutôt un thé?
Ouais, merci.
All right.
On se met là sur le canapé?
Ouais, où tu préfères.
Très bien.
Moi, j'ai l'habitude de vraiment tutoyer tout le monde. C'est pas du tout un truc dans mon ADN, le vouvoiement. Alors, est-ce que c'est parce que t'es vieux qu'on doit te vouvoyer? Ou est-ce que c'est parce que t'es quelqu'un de très respectable? Ou est-ce que... J'aime bien qu'il y ait une forme d'égalité, en fait, à tutoyer tout le monde. Donc, et puis sinon, ça me met dans l'embarras. Je sais jamais... quand on doit utiliser le « vous », quoi. Attends, tu vas être bien, là, ou il va falloir que tu tendes trop ton bras
mais... vaut mieux qu'on se mette côte à côte,
ouais,
je pense.
Je me mets là.
Alors moi, je vais faire quoi? Je tutoie, je vous vois.
Donc voilà, le vouvoiement, c'est pas dans mes manières.
C'est quoi vos manières, alors? En dehors du tutoiement.
J'ai pas de manières.
Ça raconte quelque chose.
Oui, c'est... Non, mais j'aime pas trop les règles, les principes, les trucs tout faits. Donc j'aime bien revoir, les réviser en tous les cas.
À défaut de manière, est-ce que vous avez des rituels?
Ah oui, par contre, je suis très très ritualisée, ouais. C'est un état d'esprit de ritualiser tout. Donc moi, c'est très programmé chez moi. Moi, j'aime beaucoup écrire en me levant le matin, les idées fraîches et puis... ne pas utiliser mon téléphone si possible, essayer de pas l'allumer avant d'écrire pour moi, quoi.
L'écriture, ça a toujours été dans votre vie?
J'écris dans des carnets depuis que je suis petite, donc oui, mais ça a pris de plus en plus d'importance quand même. C'était moins important quand j'étais au lycée, par exemple. Je pense que il y a eu un petit peu des trous où j'ai moins écrit. Et peut-être que ça allait aussi avec les années où j'allais le moins bien. Donc je pense que c'est quelque chose qui me rassure, me plaît et que je fais clairement de plus en plus.
Parce que justement, vous allez de mieux en mieux? Que vous écrivez de plus en plus?
Ah bah je sais pas, qui de l'œuf ou de la poule. C'est peut-être parce que j'écris de plus en plus que je vais mieux.
Ah ouais?
Je sais pas, mais en tous les cas, j'écris depuis que je suis petite, dans mes journaux, dans mes carnets. Les trucs de la journée, tiens, Sabrina, cette conne, elle m'a tiré les cheveux. Ça, j'ai noté ça.
Les choses essentielles.
Les choses essentielles. J'ai retrouvé un carnet où je suis vraiment petite et où je note ça. C'est véridique. J'avais moitié la larme à l'œil. Sabrina, je te retrouverai. Mais donc, je note ça, je note aussi ce que j'ai lu, les réflexions que j'entends dans la rue, des petites notes aussi. Des fois, on peut me dire des phrases qui me font tilt et je me dis « Ah, ça ferait une très bonne chanson ou ça ferait une très bonne punchline ». Donc, je note un peu tout ça. Ça, c'est un exercice du quotidien. Et j'ai complètement zappé ta question.
Bah, c'était moi aussi, à vrai dire.
Excellent.
C'est pas mal de perdre le fil.
C'est mieux.
Et c'est bien de perdre le fil quand on écrit aussi ?
Ah bah oui. C'est pour ça que moi, mon livre « Toutes les vies », j'ai appelé ça une autofiction, parce que c'est les moments où je préfère... écrire, c'est un peu réparer, mais c'est beaucoup mentir aussi. Et du coup, de réécrire les choses comme on aurait voulu qu'elles se passent, c'est un grand pouvoir. C'est un pouvoir surnaturel, quasiment.
Alors, c'est beaucoup mentir, mais « Toutes les vies », c'est inspiré d'une expérience vécue, à savoir la mort de votre compagne, atteinte d'un cancer du sein, les traitements, la rémission, la rechute, la mort, la quête spirituelle qui s'en est suivie. Et par rapport à l'écriture, justement, la période de la maladie est un moment où la musique, la composition mélodique comme l'écriture n'existent plus, en fait.
Enfin, moi, en tous les cas, j'ai pas pu me rattacher à ma propre création, chose que j'avais fait jusqu'à maintenant. Il a fallu que plutôt je me raccroche à la création des autres. Donc j'ai eu ce temps-là, puisque oui, c'est autofiction, donc ça part vraiment de ma vraie vie. Et ce moment-là où ma femme était malade, effectivement, j'ai beaucoup essayé de me rattacher à la littérature, à ce que racontaient les autres. J'ai beaucoup écouté de musique et beaucoup... Mais c'était pas possible, moi, de créer. C'était trop douloureux.
Il s'est écoulé combien de temps entre la mort de votre compagne et l'écriture du livre ?
Oh là là, bah beaucoup de temps, hein. Presque, ça va faire presque 10 ans. Finalement, entre le moment de l'écrire dans sa tête, d'avoir l'idée, d'avoir un déclic. Donc pour moi, le déclic, c'était vraiment « Vivre vite » de Brigitte Giraud.
Vivre vite de Brigitte Giraud a remporté le prix Goncourt en 2022. Elle y détaille les événements avant l'accident de moto qui a coûté la vie à Claude, son mari. Et chaque chapitre du livre commence par un « si ». Si Claude n'avait pas pris la moto de mon frère, si ce mardi matin avait été pluvieux. Brigitte Giraud mène son récit comme une enquête pour tenter de débusquer un signe, trouver une logique à ce qui va advenir. Vivre vite est devenu le titre du dernier chapitre de Toutes les vies, premier roman de Rebecca Warrior.
Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce déclic, mais en lisant le livre qui m'a vraiment beaucoup touchée, moi aussi, je pense que j'ai commencé à me dire « Ah, et si on était rentré plutôt du Mexique ?» Et si
Parce que c'est au Mexique que Pauline découvre qu'elle a une grosseur au sein.
Ouais. Si, y a eu peut-être des éléments de doute, un peu, par rapport à ce livre, où je me suis dit « Bon, finalement, c'est aussi comme ça qu'on réalise qu'on fait des erreurs, parce que quand on essaye de se dire « Ah si, j'avais pas fait comme ça !» Et je me suis dit « Bon, c'est important pour moi, je pense, d'écrire une histoire. »
Est-ce que c'était une forme d'autorisation ?
Je m'étais déjà mentalement autorisée, mais c'était plutôt un « Maintenant, faut que tu t'y mettes. » Tu vois, c'est possible d'écrire sur la mort d'un conjoint, donc vas-y, fais-le. Elle parle aussi, finalement, d'un moment où il faut écrire après le deuil, je pense. Et il y a un moment où il y a une nécessité d'écrire. Et donc moi, en lisant ce livre, je me suis dit, bon, c'est ce moment-là où je dois y revenir. Je faisais des petites sessions de 15 jours, on va dire, où je m'isolais, mais j'avais rarement plus. Et puis je peux pas du tout écrire 2 heures par-ci ou 2 heures par-là, faut vraiment... des temps dédiés, quoi. D'être vraiment plongée dans le récit, de pouvoir me laisser aller aussi. Et 2 heures, c'est bien pour les carnets, pour écrire le temps présent, pour écrire des petites notes, mais pas pour écrire vraiment ni... je sais pas si j'ai fait de la littérature ou de la poésie, mais en tout cas, j'avais envie plutôt d'aller vers ça, quoi.
Donc en fait, il faut du temps pour perdre le fil.
Ouais, voilà. Mais nous, on l'a perdu tout de suite. On a été très rapide.
Et je sais que la mort, la maladie assèche toute créativité, enfin que pendant un moment ce soit plus possible, au point que pour écrire, vous êtes, et notamment des chansons, avec un duo que vous formez avec le musicien Vitaly qui s'appelle Compromat, vous avez réécrit dans une autre langue.
Oui. C'était pas mon idée, c'était l'idée de Vitaly. parce qu'il voyait bien que je galérais, que j'arrivais vraiment pas du tout à... En fait, au début de Compromat, j'ai essayé d'écrire en français et puis j'ai fait un truc très mauvais. Il voyait bien que ça n'allait pas, que j'allais pas pouvoir dire ce que j'avais à dire. Donc il m'a dit, essaye peut-être de chanter dans une autre langue. Et l'allemand, ça nous a paru assez naturel parce que on fait quand même un style qui est proche de l'EBM, Electronic Body Music ou Cold Wave. Donc c'est un peu un style pour les gothiques, pour les corbeaux, pour ceux qui ne connaissent pas. Dont la figure de proue est DAF, un groupe allemand qu'on adore. Donc assez rapidement, je me suis dit, l'allemand... plus, je parlais pas du tout allemand. Donc c'était une langue vierge. Et puis je m'éloignais un peu de mes tripes, quoi, de ma langue maternelle. Je m'éloignais... je pouvais dire des choses avec beaucoup plus de recul.
Toutes les vies de Rebecca Warrior commencent par une phrase de Jean-Paul Sartre. Faute de renseignements, personne, à commencer par moi, ne savait ce que j'étais venu foutre sur Terre. Après cette citation de Sartre, toutes les vies s'ouvrent avec le texte qui suit. Pauline et moi étions amoureuses depuis de nombreuses années. Elle avait 28 ans et moi 31 quand nous nous sommes rencontrées. Nous faisions à peu près la même taille et le même poids. Nous pouvions échanger tous nos vêtements, sauf les chaussures. Elle avait des cheveux longs, châtains, des yeux noirs et de magnifiques petits seins. Son odeur me rendait folle. Personal Jesus de Depeche Mode, repris par un dieu qui s'appelle Johnny Cash.
Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Rebecca Warrior est musicienne, chanteuse, et elle vient de remporter le prix de Flore pour son premier roman, Toutes les vies. C'est une fiction, inspirée de son histoire d'amour avec Pauline, une femme à qui on diagnostique un cancer du sein, à l'âge de 28 ans. Avec les séances de chimiothérapie, Pauline perd ses cheveux et demande à Rebecca de lui raser la tête. Extrait de Toutes les vies de Rebecca Warrior. Étant moi-même rasée, cela n'aurait pas dû trop nous inquiéter. mais sincèrement, ça n'avait rien à voir. Il ne restait pas le petit bulbe qui rend le crâne foncé. La racine du cheveu était morte et son crâne lisse comme un œuf. J'avais passé le rasoir avec de la mousse et nous avions toutes les deux pleuré. Le couple de chauves.
Je suis quand même une personnalité, j'ai une personnalité plutôt radicale, on va dire. Donc...
Ça veut dire quoi, ça, pour vous ?
Je sais pas d'ailleurs. Ça veut dire que je m'y attendais à ce que ce soit frontal. Je m'attendais. J'ai pas un style ampoulé. C'est pas. Même dans la musique, comme ça fait de nombreuses années que j'écris, je fais des phrases quand même assez courtes, assez minimales. Je passe mon temps à enlever les seulement, parfaitement. Enfin, tout ce qui est un peu trop long, ça zappe. Et puis dans le livre, naturellement, je suis revenue à la ligne tout le temps parce que. J'écris comme ça aussi mes chansons, parce qu'en fait, j'y vois plus clair si je reviens à la ligne. Donc,
Mais ça, oui, la façon dont le texte se tient sur la page, c'est un truc très particulier. Mm. Comme une succession de haïkus, un peu.
Bah, aussi, j'aime beaucoup la littérature japonaise, et j'aime beaucoup les haïkus. En fait, ça me fascine aussi les écritures qui sont assez minimales et qui disent les choses assez simplement, directement. D'ailleurs, j'ai fini les correspondances là, de Proust avec sa mère. Hein. J'ai envie de l'étrangler, le mec. Bah, je vais pas dire que j'aime pas Proust. Il y a des trucs bien.
Ah, vous l'avez dit.
Je l'ai dit, merde.
Vous l'avez dit et je vais le garder parce que c'est quand même très rare d'entendre ça. Franchement.
C'est pas ce que je préfère. Je suis plus intéressée par les écritures comme ça qui enlèvent que les écritures qui rajoutent.
Mais il y a un côté coup de poing aussi.
Oui, oui, tout à fait. Il y a un côté coup de poing, il y a un côté... je pense que c'est aussi une déformation professionnelle parce que j'ai beaucoup écrit pour chanter. Donc, voilà. C'est vrai que publier, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que de chanter. C'est moins immédiat. Donc je pense que plus jeune, ça m'a paru évident que... Le moyen le plus simple pour me faire entendre, c'était de le chanter, quoi. Ou même de le hurler.
Et dans cette radicalité, en tout cas, il y a aussi l'idée, je crois, de dire les choses telles qu'elles sont. Le monde de la maladie, c'est comme si on n'y disait pas des choses.
Totalement. Ça, je pense, je ne l'ai pas choisi trop, c'est parce que je n'ai pas beaucoup de filtres, donc j'ai... écrit... en fait, ce livre, j'ai voulu l'écrire pour moi. J'ai pas eu de velléité de publication jusqu'à assez tard, finalement. Mais je pense que ça m'a rassurée, quelque part. Je voulais l'écrire pour l'écrire. Puis j'ai dû en parler à droite à gauche, que j'écrivais. Et je pense qu'il y a eu des oreilles qui ont traîné, puis des gens curieux, des curieuses. Et puis j'ai fini par le faire lire, et puis on m'a convaincue. Évidemment, quand on écrit pour soi, il n'y a pas d'autocensure, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de qu'en dira-t-on. Donc, je voulais me débarrasser vraiment des mots.
Se débarrasser des mots ?
Oui, comme ça, là, hop, on les dit, et après, c'est dit. Et ça fait du bien. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est assez... parfois, ça peut paraître un peu cru, mais finalement, en fait, aussi, pour les malades, comme pour les aidants, comme l'entourage, etc., c'est très cru, la maladie, c'est l'horreur. Donc... J'ai aussi été beaucoup confrontée aux médecins on n'appelle pas un chat en médecine, donc qui font des détours pour dire des choses, et je pense que ça m'a saoulée.
C'était à la fois se débarrasser des mots et aussi s'y confronter.
Ouais, ça a été dur de le faire, c'est vrai, mais ça m'a fait plus de bien que de mal.
Deux femmes s'aiment. Elles sont amantes et l'une devient aidante à cause de la maladie de l'autre. Extrait de Toutes les vies de Rebecca Warrior. Les oncologues, qui sont d'anciens cancérologues, annoncent des nouvelles de merde avec le sourire. Mais ils savent pertinemment que le navire coule et que le patient va se noyer. Et la cerise sur le gâteau empoisonné, les taxis conventionnés qui font du cinéma pour prendre des patients en forme parce que les gens malades vomissent dans leurs autos. C'est la cour des miracles, les miséreux, les handicapés, les infirmes, les cancéreux, les accidentés, les mourants et leurs familles. Tout le monde est là, tout le monde est perdu. Personne n'a la solution. Qui reprendra du sérum physiologique ? Et ce passage se termine par cette citation d'Hervé Guibert. « Ce livre qui raconte ma fatigue me l'a fait oublier. »
Peu de livres sur les aidants, donc peu de repères. On ne sait pas quoi faire face à tout ça. Donc en fait, on s'appelle des aidants, mais on est surtout des bons à rien. Enfin, on est juste à côté de gens malades qui souffrent et on ne peut rien faire. C'est pour ça que... Enfin, Hervé Guibert apparaît très tôt dans le livre, je le cite, parce que c'est l'ami qui ne m'a pas sauvée, quoi. On est impuissant. On fait aussi beaucoup de bêtises. C'est vrai, on fait tellement de bêtises. Et puis on regrette, puis des fois c'est trop tard, et puis on est vraiment dans un hall, il y a plein de portes, et puis on est bon, laquelle je prends, quoi. Alors j'ai pas envie de parler de culpabilité, parce que j'en ai pas beaucoup, mais je pense qu'il y avait ce truc de ressenti que les gens peuvent te renvoyer, quoi. Qu'il faut te sentir coupable, parce que tu as failli à ta mission. Et évidemment, tout le monde, personne n'y arrive, donc il y a forcément un échec. Et aussi la vision des gens qui te disent que c'est un échec.
C'est un texte où il y a beaucoup d'autres écritures. Il y a beaucoup d'autres auteurs, beaucoup de citations. Hervé Guibert, Simone de Beauvoir, Rousseau, Marc Aurèle. Comment les textes des autres se sont invités dans le livre ?
Pour moi, en fait, la littérature, ça a servi les écrivaines, les écrivains ont servi d'aidants et d'aidantes. Donc, comme je savais pas comment faire et que j'étais un peu perdue, en fait, je pense que je me suis beaucoup réfugiée dans la littérature, dans la poésie, et c'est ça qui m'aidait. Ça paraissait logique que je ressorte ces phrases-là, puisque c'était les phrases qu'on me disait à ce moment-là. C'était ce que je lisais. Donc, dans le livre, j'ai essayé aussi de raconter que, après un deuil, après la mort, il fallait aussi retrouver du sens à la vie. Enfin, pour moi, en tous les cas, l'art, la poésie, la musique, les mélodies, les mots, et puis même la spiritualité sont des choses qui peuvent donner du sens à la vie. Donc je voulais aussi parler dans ce livre d'une certaine forme de lumière ou de renaissance.
Comme ce livre, il est nourri de plein de lectures, hein, vraiment éclectiques. Mmh. Quand est-ce que vous vous êtes mise à lire ?
Alors, je ne me suis pas vraiment mise à lire. Hein. J'audiolis, moi.
Comment ça, vous
J'audiolis énormément. J'écoute des audiobooks. C'est pour ça que ma culture générale, ma culture littéraire, elle est hyper saugrenue. Parce que tout n'est pas en audiolivre. Donc il y a des trucs, c'est l'anarchie totale. C'est pour ça que j'ai lu beaucoup, beaucoup de classiques français. J'ai quasiment pas lu tout ce qui était moderne, parce que ça sortait pas en audiobook. Donc c'est pour ça que c'est le bordel, oui.
Ici, l'esprit devient lion. Il veut conquérir la liberté et être maître de son propre désert.
Vous venez d'entendre un premier extrait d'Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche, lu par Michael Lonsdale. C'est le premier livre audio ou audio-livre que Rebecca Warrior a écouté. Et pour Totemic, c'est la voix de Michael Lonsdale qu'elle a choisie.
Je ne sais pas pourquoi on tombe amoureux, pourquoi on aime un tel ou un tel, pourquoi une voix nous brise le cœur, mais bon, Michael Lonsdale, c'est mon héros de voix. Après, j'allais voir tous ses films, je suis devenue une grosse fan de Michael Lonsdale. Il faisait beaucoup de lectures, donc je me tapais des bornes pour aller voir Michael Lonsdale lire. Je suis une grosse fan de sa voix. Et Zarathoustra, c'est quand même aussi je l'écoute vraiment régulièrement.
Mais c'est un texte ardu, quand même.
Oui, mais pas que, parce que c'est très imagé aussi. Donc, il y a un lion, il y a énormément d'images et où on est transporté, parce que c'est... Je sais pas, pour moi, c'est proche du conte aussi.
Il cherche ici son dernier maître. Il veut être l'ennemi de ce maître, comme il est l'ennemi de son dernier dieu. Il veut lutter pour la victoire avec le grand dragon. Quel est le grand dragon que l'esprit ne veut plus appeler ni Dieu ni maître ? Tu dois, s'appelle le grand dragon, mais l'esprit du lion dit « Je veux ».
Rosalia.
La grande paz.
La perla.
Campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón. Gasta el dinero que tiene también. Estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio de la gran no sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas al psicólogo, también al psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará un monumento a la deshonestidad.
Elle se prénomme Julia et s'est choisie Rebecca Warrior pour nom de scène. Non, elle n'a pas choisi. C'est Mitch Silver, un musicien avec qui elle a formé un duo, qui a trouvé ce pseudo. Et elle a dit oui. Mitch Silver et Rebecca Warrior, on dirait deux personnages de sitcom ou de jeux vidéo. En 2001, ils fondent le duo Sexy Sushi. Je les soupçonne d'avoir choisi ce nom pour qu'on trébuche en le disant à la radio. Sexy Sushi, comme les chaussettes de l'archiduchesse un peu. De toute façon, leurs chansons ne furent pas diffusées à la radio. Trop punk, trop radical, avec des titres comme Rachida Dati ou Rien à foutre du ghetto.
Je serais sur Nostalgie, et J, et J. Donc, je suis à la marge, on m'a mis là, mais...
Le fait de fonder ce duo Sexy Sushi, l'ambition au départ, c'était quoi?
Il n'y avait pas d'ambition. Il y avait zéro ambition, on annulait une date sur deux. C'était vraiment une date sur deux, ah, j'ai la gueule de bois, j'y vais pas. À un moment donné, on avait inventé un concept qui était la roue de l'infortune. Donc on avait une roue avec nous, avec tous les titres des morceaux, et puis d'autres pièges. Et il y avait banqueroute. Donc si on faisait monter quelqu'un du public, tournait la roue, si on tombait sur banqueroute, ben le concert était fini. Sauf si le public se rebellait. Donc il fallait que le public prenne le pouvoir, sinon bah, il n'y avait pas de concert, quoi. Mais finalement, en fait, à partir du moment où, dans le public, ils comprenaient le concept et qu'ils comprenaient que c'était eux qui avaient le pouvoir, tout de suite, ça s'enflammait et là, ça devenait cool. Très, très cool.
Donc, ça vous plaît de perdre le contrôle?
Ah bah ouais, c'est génial. C'était un groupe pure punk. L'ambition de base, pour être vraiment sincère, c'est parce qu'en fait, j'avais envie de... Je savais pas où rencontrer des meufs, parce que j'étais déjà lesbienne et c'était compliqué. Et il y avait pas de, à cette époque, il y avait pas trop de bars ou d'endroits où je pouvais aller, donc je trouvais pas, donc je m'étais dit, les deux meilleures solutions, c'est soit être prof de surf, soit être chanteuse. Voilà, pour draguer des nanas. J'ai abandonné le surf. Moi, c'est pour rire, mais il y avait un peu de ça, il y avait un peu d'essayer de sortir de mon carcan, d'essayer d'un peu de, tu vois, je sortais, j'avais vécu à Saint-Nazaire, ensuite j'avais un peu vécu à Nantes. Je suis née en 78, donc c'était, il y avait pas énormément de films avec des lesbiennes, pas énormément de littérature, c'était compliqué, quoi, il y avait pas de bar, je savais pas où rencontrer des meufs.
Et il y avait ce geste aussi de faire de la musique avec ce qu'on a.
Le premier concert, tu sais, on nous avait invités à l'Usine Nue, donc c'est une salle à Nantes, et on n'avait pas d'ordi portable, donc on a emporté l'ordi de bureau sur un skateboard, on l'a attaché avec des tendeurs, et on est allé avec notre ordi de bureau, on n'habitait pas hyper loin, mais on a traîné ça dans la ville, avec l'écran sous le bras.
Vous avez toujours fait comme ça?
Oui, oui. Bah, comment faire? Ah bah, je sais, j'ai un skateboard. C'était évidemment la bonne solution.
Je sais pas faire, mais c'est pas grave, on y va.
Voilà, vaut mieux... comme je le disais, hein, j'ai probablement fait beaucoup d'erreurs, mais j'ai fait plein de choses.
En même temps que le punk de Sexy Sushi, Rebecca Warrior forme un autre duo avec Carla Pallone, une violoniste, interprète de musique baroque. Elles deux se font appeler Mansfield Tia.
Carla Pallone, elle est musicienne classique, ouais, elle a fait du violon classique et du violon baroque. Elle m'a vraiment fait rencontrer la musique plus classique, plus... Moi, j'écoutais pas du tout Bach, ou j'écoutais pas du tout des trucs comme ça.
Ah, vous dites Bach.
Je dis Bach, ouais. Ouais, bah maintenant, je suis germanophone.
Ah, c'est vrai.
Et j'écoutais pas ça, et elle m'a vraiment fait connaître plein de trucs que j'ai adoré. Et... Ça m'a ouvert grand les oreilles de cette rencontre.
Et est-ce que ça a fait écrire différemment ?
Ah bah oui, bien sûr. Parce que dès qu'on apprend quelque chose, dès qu'on on est plus au courant de ce qui s'est passé ou de l'histoire de la musique, etc., ouais, après, on ne peut plus composer pareil.
Et vous travaillez votre voix ?
Oui, ouais, ouais. Alors, est-ce que je me suis améliorée ? Ça, c'est pas sûr. Au début, d'abord, je l'ai abîmée. Je me suis fait...
En hurlant ?
Ouais, en hurlant, ouais. En faisant pas mal n'importe quoi, en faisant Sexy Sushi notamment. J'ai eu des nodules que je me suis fait opérer. Après, j'ai dû réapprendre à parler et à chanter. J'ai plus tout à fait la même voix qu'il y a 20 ans. Elle a un petit peu changé après l'opération, je trouve. Et ensuite, après cette opération, j'ai pris des cours de chant. J'ai beaucoup travaillé, puis j'ai pris des cours de chant baroque, lyrique, etc. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai plus bossé. Tout en faisant uniquement à l'oreille, parce que je ne sais pas lire la musique. Mais à la base, c'était vraiment plus me faire jamais mal. Vraiment avoir des notions d'échauffement, des notions de ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais pas faire. J'ai pris aussi des cours de chant métal, où je chantais avec une caméra dans les cordes vocales. Et tu sais, on fait du chant métal, quoi. Et on regarde ce qui se passe au niveau des cordes vocales. Donc, un peu pour apprendre aussi les limites de la voix, et ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire avec la voix. Donc ça m'a... J'ai dessiné les contours de ce que je pouvais faire.
Après le punk de Sexy Sushi, l'électro-baroque de Mansfield Tia, voici Compromat, duo que Rebecca Warrior forme avec le musicien Vitalik. Leur nouvel album s'intitule Playing Praying. Où est-ce que vous avez joué avec Compromat pour la première fois ?
La première fois à Péripat. C'est un squat parisien, sous un pylône EDF. C'est un endroit qui est devenu un peu mythique, parce que les teufs qu'il y a eu là, elles étaient superbes, puis elles se finissaient jamais aussi. Parce que c'est un endroit qui était un peu magique, quoi. On voyait les voitures passer, il y avait des petites meurtrières comme ça, où on voyait la lumière du jour, et puis les gens passaient, puis nous on était enfermés là-dedans à faire de la musique, et c'est un lieu qui est assez beau. Bon, il n'existe plus, mais...
Mais c'est la nuit.
Ah ouais, le monde de la nuit, c'est... J'aime la nuit parce que tout est fermé, on est peinard. Le grand capital a fermé ses portes.
Vous avez eu une vie de fêtarde ?
Ah bah j'ai encore une vie de fêtarde, m'enterre pas.
Vous avez quel âge ?
J'ai 100 ans, j'ai 47 ans. Et j'ai toujours fait la fête, je ferai la fête jusqu'à la mort. Je trouve ça génial, la vie, la nuit, les copains, la musique, rentrer à pas d'heure, voir le jour se lever, entendre les petits oiseaux. En fait, ces moments-là, c'est des moments d'éternité, donc c'est offert, c'est cadeau.
Un concert, ça doit avoir à voir avec ça ?
Oui, c'est en tous les cas, moi comme je fais ça depuis longtemps, c'est souvent le début de mes nuits, donc je commence par un bon concert. Les concerts, en fait, on a encore joué là il y a 2 jours, et on était en République tchèque il y a mercredi, je crois. Et qu'est-ce que c'est bien les clubs, rencontrer des gens, des Tchèques, parler toutes les langues, se taper dans la main, dire qu'on se reverra dans 3 ans. Je sais pas, il y a un truc magique, c'est les gens de la nuit. J'ai des amis qui sont depuis des années, qui sont mes amis de nuit, j'ai pas leur numéro de téléphone. Je les vois parce qu'on va dans telle soirée, donc je revois mes amis de nuit.
Je vais vous faire écouter une musique.
Ouais.
Ok. 1980 de Cure avec le morceau A Forest.
Je suis un peu en avance.
Quand même, c'est que vous faites les instruments et vous ne faites pas la voix.
Ah, il a chanté tard, j'y arrivais. See into the trees. Je la connais aussi. C'est un morceau que j'adore faire en karaoké. Les Cures, c'est vraiment c'est fondateur pour moi. J'ai écouté. Quand j'étais assez jeune, j'étais à Les Cures. Je ne savais pas, tu vois, quelle tête il avait, qui c'était et tout. J'écoutais ça, j'étais là, waouh. Et j'écoutais la cassette à balles. Et je sais que ce qui me séduisait, c'était que c'était super mélancolique, c'était triste. Et ça me faisait penser à des choses tristes et j'adorais ça. Ça nous fait du bien d'avoir ce moment de chagrin. On pense à des trucs durs et puis après, on arrête la cassette et... C'est mieux.
Et même quand on comprend pas les paroles.
Ben non, parce que pendant longtemps, c'est drôle que tu dis ça, j'ai chanté Les Cures, mais vraiment, yaourt dégueu, quoi. Sugar, my sweet. Et quand j'ai commencé à parler anglaise, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est regarder les lyrics. Ça me plaisait tout autant. En fait, je crois que j'avais compris ce qu'il racontait. Je crois qu'on comprend les langues. Quand on écoute de la musique, on comprend ce que racontent les gens. Et depuis, j'écoute toujours. J'ai eu la chance de jouer avec eux à Rock en Seine. J'avais rejoué avec eux, mais c'est un secret. Mais je le dis, parce que j'en ai rien à foutre.
Vous allez rejouer avec Les Cures ?
Ouais, je suis trop contente. Et c'est vraiment un groupe que j'écoute encore avec plaisir et qui a fait un dernier album que je trouve encore absolument génial. Donc voilà, je renouvelle mes vœux.
Et pour ce qui concerne la chanson française, alors, voire la variété française, quels sont les textes qui vous touchaient ado ?
En variétoche, j'ai vraiment pas écouté grand-chose. J'ai beaucoup écouté Mylène Farmer, cela dit.
Ah bah ça se pose là quand même.
Ça se pose là, c'est Mylène. C'est Mylène, c'est en haut de la pyramide de la variété. Et j'ai beaucoup écouté quand j'étais petite Gotener aussi, j'adorais.
Ah oui, donc vraiment au spectre opposé total des Cures.
Ouais, mais regarde, entre Sexy Sushi, mon groupe de punk et Menchitia, bon, c'est large. J'ai fait beaucoup de musique très différente aussi, donc je pense que Gotener, ça me faisait rire comme il écrivait. Je trouvais qu'il écrivait très bien, avec beaucoup d'ironie. Il n'est pas un qu'on dit, de docteur qui guérit la mambo maladie, d'une calcomanie. Elle m'a pris tout petit haut, dans l'eau du lavabo, la maladie mambo, la manie des calcos, mambo. Ça me parlait beaucoup aussi, Gotener.
L'ironie, c'est un de vos registres en chanson.
Ouais. J'adore l'ironie. En fait, je trouve que le monde est supportable uniquement avec de la satire ou l'ironie. Dès que je commence à être trop grave, je trouve que je désamorce. Pour moi, c'est important d'avoir de l'humour noir, de l'ironie, d'être satirique, de pouvoir désamorcer tout ça.
J'aimerais qu'on s'arrête quand même un tout petit peu sur Mylène Farmer.
Avec plaisir.
Ah bah allez-y, le micro est ouvert.
Mylène, si tu m'entends, ça fait des années que je te demande de faire un featuring. Donc cette fois, peut-être, hein, tu vas m'écouter. J'adore Mylène, j'adore bah, pour les mêmes raisons que les Cure, pour les mêmes raisons aussi que j'aime beaucoup l'Indochine. Alors j'avais lu un article quand j'étais ado qui m'avait hyper vexée, parce que j'écoutais Mylène et Indochine et j'avais lu dans cet article que c'était pour les adolescents.
Dire c'est de la musique pour adolescents, c'est assez condescendant en fait.
Bah, il était très condescendant cet article, ça m'avait vexée moi.
C'est dire qu'il y a du bon goût et du mauvais goût.
Aussi, mais je ne suis pas d'accord. Hein, puisque moi, après cet article, j'avais vachement... Tu vois, j'y pense encore. Ça fait 20 ans que j'ai lu cet article. Et je m'étais dit, mince, peut-être je ne dois plus aimer. Peut-être je dois changer mes goûts parce que c'est teenage. Et en fait, je pense que... Non, il avait tort. Et aujourd'hui, en fait, j'assume. C'est peut-être pour les adolescents et j'en ai rien à foutre. Je trouve ça super, la musique des adolescents.
Solène et Yoa, tellement Héloïse.
Plus t'es bourgeois, moins t'as de trucs à dire. J'ai pris ma cravache et mes bottes de cuir. Je compte plus les moutons ou les violeurs qui passent à la télé. Je méprise les bouffons et les suiveurs qui les font prospérer. Je pardonne à personne, je te l'ai dit, je suis redoutable. Je veux pas de fils de 1, pas de connard à ma table. Équipe de copines dans la voiture, cheveux dans le vent. Brille comme des étoiles qui traversent le ciel incandescent. Et je vais tuer mon idole, prendre la fuite, effacer au vitriol, voir au folle, viser le drame à partir comme nous, ils étaient ma fin de course. Coup de route, on lâche rien à part le frein. Je prends ma vie dans ma valise, partir comme ta mère. Je vais tuer mon idole, prendre la fuite, effacer au vitriol, voir au folle, viser le drame à partir comme nous, ils étaient ma fin de course. Coup de route, on lâche rien à part le frein. Je prends ma vie. Comme Thelma et Louise. Partir comme Thelma et Louise. Partir comme Thelma et Louise. C'est un bois fort mais ça s'est crému la queue. Ils ont le mort parce qu'on va briller plus fort qu'eux. J'ai dévité des vérités, des petits lapins ont détalé. Ça leur fait mal de quémander, de baver, de se faire recaler. Ça fait les seigneurs, ça se complaît dans la mentale. S'il nous balance des miettes, nous on va retourner la table. Moi je me suis perdue et retrouvée dans les bras de mes douces. À penser autour d'un bûcher, ce soir la lune est rousse. Et je vais tuer mon idole, prendre la fuite, effacer au vitriol, voir au folle, viser le drame à partir comme nous, ils étaient ma fin de course. Coup de route, on lâche rien à part le frein. Je prends ma vie dans ma valise, partir comme telle ma. Je vais tuer mon idole, prendre la fuite, effacer au vitriol, voir au folle, viser le drame à partir comme. Je vais tuer mon idole, prendre la fuite, l'effacer au vitriol, voir au folle, viser le drame à partir comme Louise et Thelma. Fin de course, bout de route, on lâche rien à part le frein. Je prends la vie dans ma valise, partir comme Thelma et Louise.
Rebecca Warrior, musicienne, chanteuse et autrice d'un premier roman intitulé « Toutes les vies » est dans Totemic. Pour sa carte blanche, Rebecca Warrior a choisi de lire un texte. Alors j'ai dit...
L'idée, c'est que ça dure environ 1 minute 30.
Ouais, j'ai fait 8 minutes.
C'est charitable. On rendra l'antenne à 10h10.
Tu pourras le passer en accéléré. Alors, c'est Les Forces de Laura Vasquez. C'est une poétesse et une écrivaine dont je suis archi fan. Et qui m'a beaucoup aidée à la relecture de Toutes les vies. Donc je l'ai rencontrée à la Villa Médicis, où j'ai pas mal écrit moi Toutes les vies. Et j'ai tout de suite eu envie que ce soit elle qui m'aide pour le livre, parce que je voulais demander qu'à une seule personne. Donc j'ai jeté mon dévolu sur Laura.
Et elle vous a aidé comment ?
Elle m'expliquait ce que j'étais en train de faire.
Ah ouais ?
Elle me rassurait aussi, donc elle m'a été d'une grande aide. Je ne sais pas si elle le réalise, mais non, elle m'a beaucoup aidée, ouais. Et voilà, j'adore son dernier livre qui s'appelle « Les forces ». La devanture du bâtiment était pleine d'images de bonheur. Des visages souriants, des personnes à la peau parfaite, sans pores, sans gras, des ciels ensoleillés, des nuages blancs, purs, bons, ne produisant pas d'ombre, des enfants sereins, les yeux fermés, souriants, éclairés par un paysage ouvert, lumineux, de vastes champs, et des personnes sur le sommet d'une montagne qui se tapent dans la main, et divers mots de bienvenue comme « entrez dans le respect, venez trouver la paix », et des questions « comment s'aimer soi-même »,« comment prendre soin des autres », »,« comment pardonner », »,« comment cultiver des relations saines et authentiques ». Et puis une question tout au-dessus de celle que j'avais lue sur le prospectus. « Voulez-vous être sauvé ?» Et plus bas, comme un sous-texte, « Voulez-vous être heureux ? Est-ce que je voulais être heureuse ?» À cette question d'apparence rhétorique, je trouvais bizarre de répondre oui. Répondre oui, oui, allez, je veux être heureuse. Je veux le bonheur pour moi, malgré l'état du monde, la cruauté, l'indifférence et la bêtise. Oui, je veux être heureuse et je veux rire au sommet d'une montagne en tapant dans la main d'une amie. Oui, s'il vous plaît, brûlez des zones de mon cerveau, empêchez mes réflexions personnelles afin que je sois heureuse. Je veux être heureuse, même artificiellement. Je veux un sourire figé, comme sur ces images. Je veux que l'expression de ma figure représente la joie. Et par conséquent, je veux donner des conseils aux gens, les pauvres gens qui ne sont pas heureux, car ils ne sont pas heureux, et même quand ils se croient heureux, ils ne sont pas vraiment heureux, car ils sont heureux dans les plaisirs, ils sont heureux de la mauvaise manière. Je veux représenter le bonheur, je veux convaincre les autres en représentant le bonheur. Je veux m'en convaincre moi-même, et pour m'en convaincre, j'en parlerai, je dirai ce qui m'a convaincu. Je veux sourire devant mon miroir jusqu'à ce que mon visage accepte le sourire. »
Pourquoi cet extrait-là des forces en particulier ?
Bah, pour son ironie, je trouve vraiment acerbe. Il est malaisant aussi. C'est vraiment... qui n'a pas entendu des gens essayer de te convaincre de leur bonheur, quoi ? Oui, moi, j'ai changé de vie, maintenant, je suis méga heureux. Il n'y a rien de plus saoulant que ça, non ? Il n'y a rien de plus faux aussi. Ça sonne vraiment faux. Voulez-vous être sauvé ? Tu vois, c'est ce genre aussi de trucs qu'on voit aussi beaucoup sur les réseaux, avec genre des formules pour être heureux, des formules pour réussir sa vie. Ouais, il y a des aides pour tout, il y a du développement personnel pour tout. Là, c'est vraiment le développement personnel à l'état pur.
On termine avec la musique que vous avez choisie ?
Yes.
En général, je demande un tube.
Mais c'est un tube.
Ouais.
C'est pas un tube ?
Allez-y, dites ce que c'est.
C'est Philippe Glass. Ouh, non-tube. Non, mais tu vas changer.
Non, 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 je suis pas rebelle, là. Quoique. Non, non.
Je te vois.
Non, non, c'est Philippe Glass, c'est...
Bah, Philippe Glass, je me suis dit que ça passait en tube. Même si c'est vrai, c'est...
C'est vrai que de la musique contemporaine, ça, cela dit, il y a des morceaux magnifiques... Alors, ça, en plus, c'est tiré d'un opéra.
Ah bah c'est pour ça que je l'ai mis, ouais. C'est quand même un tube, ça groove. Si, ça marche.
Pour Totémique, Rebecca Warrior a choisi un extrait de la pièce Einstein on the Beach de Philip Glass.
En fait, je l'ai choisi parce que je l'ai hyper poncé ces derniers temps, parce que j'ai écrit pour mon ami Vima Laponce une musique de spectacle, la musique de son spectacle Onda Romance. Bon, j'ai écrit une partie, il y a aussi Thierry Acarivel et Fiona Mombay qui ont écrit avec moi. Mais j'ai écrit pour un chœur de 9 chanteuses et je suis hyper touchée de ce qu'on a fait. Et là, je l'ai vu plein de fois ces derniers temps. Et donc voilà, j'ai beaucoup écouté Philippe Glass pour composer ça. Donc,
Et au-delà de ça, le côté là aussi minimal,
bah ouais.
Et répétitif.
Et répétitif, la boucle par essence, un peu trance. Il y a un morceau hyper bien d'un groupe qui s'appelle Shellac. Il joue de la basse pendant presque genre 7 minutes. Il fait que ça tout le temps. Trans. Et à un moment donné, il fait juste. Et à chaque fois, je l'écoute. Ah, ça va être maintenant. Ça va être maintenant. C'est mon moment. Ah, t'es là. Et c'est absolument. C'est jouissif, quoi. C'est le moment que t'attends. Dans un tube, t'attends vraiment. C'est ça, c'est ce que tu dis du tube. C'est genre. C'est le refrain, c'est le refrain. Puis en général, en fait, on est trop pressé. Souvent, on part un temps avant. Donc voilà, c'est pour moi, c'est ça le tube. C'est quand t'attends. Le moment où il y a un mini changement.
On termine avec la photo ?
Ben oui,
avec mon chat.
Avec le chat, d'accord.
Avec mes lunettes, ça fait écrivain.
La photo est développée.
Ah yes, fais-moi voir. J'adore. Un bon chat, un livre et un canapé.
Vous ressemblez un peu à Brigitte Fontaine, je trouve, non ?
Ah bah ça me fait plaisir, hein, de ressembler à mamie.
Merci beaucoup Rebecca Warrior.
You're welcome, c'est moi.
Toutes les vies de Rebecca Warrior apparues chez Stock après la sortie du nouvel album de Compromat, duo que Rebecca Warrior forma avec le musicien Vitalik. Ce duo est en tournée à Audincourt le 12 décembre, à Saint-Malo le 18, à La Rochelle le 19. Des dates sont programmées jusqu'en mars. Stéphane Le Guenec réalise Totémique et c'était avec Corentin Rouchy. Aujourd'hui, Perrine Malinge programme nos invités, Ilinka Negulesco trouve les sons et la documentation, et JB Audibert prend soin de nos disques. La semaine prochaine, je vous propose une balade dans Paris avec Benoît Delépine, puis un rendez-vous avec le dramaturge Thiago Rodriguez, et nous finirons l'année avec Jonathan Cohen.